franceinter.fr. Bonjour Alain Marathon.
Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous.
C'est l'heure de la main verte. Un produit autorisé en agriculture biologique n'est pas pour autant sans danger pour l'homme.
Le tourteau de ricin en est l'exemple parfait. Sur les sites qui le commercialisent et sur les emballages, il est possible de lire « Le ricin est une plante herbacée, arborescente et vivace. Le tourteau de ricin, produit entièrement naturel, est obtenu après trituration des graines de ricin. C'est un engrais naturellement azoté, riche en oligo-éléments et en matière organique qui favorise, voyez-vous, l'activité microbienne du sol. Et il possède des propriétés insecticides, nématicides et répulsives pour les mulots, campagnols et taupes.
Alors pour une fois, ça paraît normal ce que vous dites, mais je sens une certaine ironie dans votre voix.
On ne peut rien vous cacher.
Alors, c'est du quoi? Vous vous méfiez du ricin?
Eh bien, je me méfie quelque peu, quoique c'est une très belle plante. Non, le ricin, il faut le savoir, est un arbuste qui produit de jolies feuilles vertes ou rouges, des fleurs rougeâtres disposées en grappes. Les fruits sont des capsules contenant les graines, et c'est avec elles que l'on obtient l'huile de ricin.
Ah, la fameuse huile de ricin. Mais il y a un problème.
Eh bien oui, tout est toxique dans le ricin, mais c'est la graine qui est la plus redoutable. Et ce n'est pas Georges Markov qui dira le contraire, lui qui s'opposait à Ceausescu. En septembre 1978, alors qu'il se promène tranquillement dans les rues de Londres, il est blessé par la pointe d'un parapluie. C'est la fameuse histoire du parapluie bulgare, qui est en fait une arme redoutable, un pistolet hypodermique dans lequel on a injecté de la ricine. Georges Markov n'y survivra pas, il meurt quelques jours plus tard.
Alors ça c'est un poison, mais il ne faut peut-être pas le confondre avec le tourteau de ricin.
C'est vrai, même si ce tourteau est un reliquat d'huile de ricin. Il est vendu en poudre assez grossière ou en granulé et doit être enterré dans le jardin. Mais il faut savoir que si votre animal de compagnie, chat ou chien, déterre le produit et le mange, il est condamné. Alors je n'ose imaginer...
Laurent Delmas, vous écoutez, vous entendez ça?
Et je n'ose imaginer si un enfant en fait de même.
Mais comment? Mais fort heureusement, ils sont... Enfin, j'imagine que ces produits sont élaborés par des gens responsables.
Eh bien oui, il est vrai que les scientifiques qui ont travaillé pour le bienfait de l'agriculture sont parfois exemplaires. Je pense à Fritz Haber, prix Nobel de chimie 1918, toujours glorifié dans certains pays, et qui a été l'un des premiers à s'intéresser aux insecticides agricoles et qui a contribué à la fabrication du gaz moutarde et du démentiel zyklon B. Je pense aussi à ces quatre chercheurs allemands qui cherchaient à fabriquer le meilleur insecticide, toujours pour l'agriculture. Ils se nomment Gerhard Schrader, Ambros, Rüdiger et Van der Linde. Pour la petite anecdote, si on peut parler d'anecdote, Ambros sera condamné pour avoir expérimenté des produits chimiques sur des malheureux juifs détenus à Auschwitz. Sachez enfin que l'initiale du nom de ces hommes, S-A-R-I-N, a donné son nom à un nouveau gaz, le gaz sarin.
Est-ce qu'on pourrait finir sur une note positive?
Oui, bien sûr, parce qu'il existe fort heureusement des gens merveilleux qui travaillent vraiment pour le bien de l'humanité. Il faut surtout se souvenir qu'un produit certifié AB, agriculture biologique, peut donc être dangereux et que le tourteau de ricin, pas plus que la plante, n'est à employer à la légère.
Est-il nécessaire de planter tous les érables dans de la terre de bruyère, vous demande Gabriel.
L'avantage des érables, c'est qu'il y a une seule famille avec tous les érables. C'est, je crois, l'un des rares végétales qui, effectivement, n'apprécie pas beaucoup d'autres végétaux que ses propres, j'allais dire, cousins. Alors, il y a les érables du Japon, il y a les érables sycomores, il y a les érables champêtres, l'érable du Père David, etc., etc. Les seuls qui exigent de vivre dans de la terre de bruyère sont les érables du Japon. Les autres n'apprécieraient pas beaucoup. Donc, excepté ces érables, vous connaissez les érables du Japon qui sont souvent de dimensions modestes et qui surtout prennent à l'automne des couleurs flamboyantes, des rouges, des jaunes, des oranges, absolument inouïs. L'ensemble des autres érables apprécient les terres tout à fait normales de vos jardins.
Et quelle ombre délicieuse! Moi, j'en ai un dans mon jardin qui a plus de 100 ans. Il est absolument génial.
Un érable du Japon?
Mais non, c'est pas du Japon. Ah. Non, il est grand. Il est assez grand. Jade voudrait savoir quels sont les arbustes qui accepteraient de pousser sous un gros et vieux tilleul.
Et quand on est sous un vieil arbre, il y a deux problèmes. L'ombre prodiguée par le vieux végétal et la place des racines sous terre. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que quand vous regardez un arbre, eh bien, il faut s'imaginer que sous terre, il y a le même volume de racines qu'à l'extérieur en branches. Ça vous donne une petite idée. Donc, vous mettez déjà un végétal sous un tilleul, il aura du mal à trouver le soleil nécessaire pour sa croissance. Mais en plus, le tilleul n'est pas très partageur. Quand il pleut, eh bien, il a déjà mis en place un système de racines inouïes. Toute l'eau sera captée à son propre profit. Donc non, je ne connais pas de végétaux capables de bien se développer sous d'arbustes. On peut mettre des petites fleurs, mais d'arbustes ou d'autres arbres que sous un vieux tilleul, je ne connais pas.
Maëva a le problème suivant. L'an dernier, les feuilles de ses lauriers étaient trouées et couvertes d'une pellicule blanche. Que faire pour stopper le problème?
Et là, Laurent Delmas me souffle, mais quel laurier?
Quel laurier, Alain?
Et Pierre Veil, vous soufflez pas? Quel laurier? Oui, oui, oui. Vous voulez savoir quel laurier?
Merci Pierre Veil.
Isabelle fait de même.
Non, mais vous avez raison de poser la question, Pierre et Laurent. Souffle. Laurier rose, laurier cerise, laurier thym, laurier du Caucase. Allez donc savoir, en général, quand on parle de laurier au pluriel, on parle d'une haie. Pardonnez-moi, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de laurier du Caucase, Prunus orocerasus caucasica en nom botanique.
Je l'aurais dit.
Alors, les feuilles, oui, tout à fait. Quand les feuilles sont trouées...
C'est incroyable, hein, il dit tout ça sans avoir une note.
Quand les feuilles... Non, je vais vous dire pourquoi, parce que j'avais un vieux professeur de botanique qui nous obligeait à apprendre par cœur le nom latin des végétaux. Et il nous disait plus tard, vous m'en remercierez, cet homme est mort il y a longtemps, je le remercie, parce qu'effectivement, quand je me déplace en Italie, par exemple, un pays qui vous est cher, je parle d'une même voix avec les Italiens, car nous parlons du même végétal quand nous parlons en latin. Alors, la présence de feuilles trouées indique la présence d'une maladie. Oui, la maladie dite criblée. On croit souvent que ce sont des bestioles qui viennent manger les feuilles, pas du tout. Maladie cribleuse, c'est une maladie cryptogamique, exactement comme la petite pellicule blanche qui va se mettre sur les feuilles, qui est souvent donc de l'oïdium. Que faire? On pourrait mettre de la bouillie bordelaise, utilisée en agriculture biologique, mais je n'aime pas les produits. Il faut simplement se souvenir que les plantes, mises à distance respectable, dans une bonne situation, généralement résistent d'elles-mêmes aux problèmes. Si vraiment il n'y a pas moyen d'éviter le problème, le purin de prêle me semble tout à fait conseillé. Le purin de prêle, c'est simplement avoir mis de la décoction de la prêle que l'on trouve dans le jardin et on va faire une pulvérisation très tôt au printemps et après, de temps en temps, pour remédier à ce problème.
Chloé a rapporté de Thaïlande une bouture. Elle est restée la bouture dans son sac 3 jours sans eau. A-t-elle des chances de prendre ?
Déjà, c'est miraculeux que notre amie Chloé n'ait pas été interpellée aux douanes, car il est strictement interdit de ramener des végétaux de l'étranger. Quand vous allez en Corse, par exemple, on vous rappelle souvent dans l'avion que l'introduction sur l'île de Beauté de végétaux est strictement interdite.
Vous savez que la Corse, c'est la France. Hein.
Oui, oui, non, mais je citais un exemple d'un département qui est une île, pour bien montrer que le déplacement de végétaux, il faut être prudent. Quantité de maladies, d'insectes, de virus ont été transportés ainsi par des visiteurs, des touristes qui n'ont pas conscience des risques qu'ils font prendre à toute une région. Alors, bon, le mal est fait, donc je propose maintenant que la poubelle aille directement à la poubelle pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, une bouture qui a été coupée au bout de 3 jours a très peu de chances d'être, ma foi, en état de redémarrer.
Donc en fait, vous avez grondé Chloé.
Oui, parce qu'on ne ramène pas de l'étranger, on respecte les règles sanitaires, bien évidemment.
Un arbre acheté dans le commerce est-il garanti? Voudrait savoir Inès. Alors, je ne sais pas si c'est votre Inès à vous, Pierre, puisque c'est le prénom de votre fille. Elle s'intéresse à la botanique?
Un petit peu, oui. Mais c'est intéressant, c'est une question intéressante. Il y a des garanties?
Eh bien, oui, fort heureusement. Elles sont généralement de 12 mois. 12 mois à compter de la date d'achat et non pas de la plantation. À condition, bien évidemment, que vous avez planté le végétal dans des conditions normales, que vous avez respecté la terre, les exigences et l'exposition. Il est très difficile pour un vendeur, un pépiniériste, par exemple, de vérifier que vous avez respecté les bonnes conditions. Mais en règle générale, ce sont de grands professionnels qui vous donneront un nouveau végétal, un bon d'achat pour un autre végétal pour l'année suivante. Parce que je vous rappelle que la garantie court sur 12 mois, mais que c'est généralement au printemps que l'on constate la non-reprise du végétal et qu'il est donc trop tard, effectivement, pour le remplacer. Donc, rassurez-vous...
Il y a des vis cachées
C'est
une question de Pierre de Paris.
Eh bien, vous avez raison de poser la question, parce qu'il arrive que des pépiniéristes vous vendent des végétaux supposés être produits localement, alors qu'en fait, ils viennent de pays lointains, qui ne sont pas adaptés au climat et qui peuvent, effectivement, souffrir d'une transplantation. Donc, il peut y avoir chez les arbres, effectivement, des vis cachées. L'occasion de rappeler que quand on achète des végétaux en conteneur plastique, méfiez-vous, regardez les racines, parce que là encore, on peut mettre de mauvais végétaux dans des pots en plastique.
Un conseil pour terminer.
L'abbaye de Vaucelles, 27e exposition internationale d'orchidées, ça se passe les rues des Vignes, c'est une ville du nord de la France.
Vous avez remarqué qu'il y a 10 minutes, qu'il est presque 10 minutes qu'il est en apnée. Hein.
Oui, heureusement qu'il n'y a pas de garantie sur l'horaire. Hein.